auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Votre émission, histoire d'en savoir plus, aujourd'hui se situe toujours dans le cadre de l'année 2022, année internationale du verre. Et nous nous trouvons chez Adrien Collat, qui est meilleur ouvrier de France et maître verrier hors pair. Nous nous trouvons donc dans son atelier boutique. Et nous voyons des cages à oiseaux en verre, un bateau, des coutes transparentes accrochées à des branches. Et l'on se demande comment est-ce qu'on arrive à faire cela. Bonjour Adrien Collat.
Bonjour.
Alors, question forcément qu'on a envie de vous poser, c'est comment êtes-vous venu au métier d'art, au métier de verrier d'art, devrais-je dire plutôt?
Eh bien, écoutez, j'ai grandi dans les métiers d'art, puisque mes parents sont céramistes depuis une trentaine d'années. Et du coup, j'ai eu l'occasion de découvrir les métiers manuels, les arts du feu, par le biais de mes parents, en pouvant profiter de l'atelier. Et en pouvant créer sur différents supports. J'ai toujours été intéressé par le dessin. J'ai pratiqué un petit peu de la céramique en loisir. Et puis, j'ai eu l'occasion de m'essayer au travail du verre au chalumeau par le biais d'un petit stage pour apprendre la perle de verre sur 2, 3 jours. Et ça a été le coup de cœur pour la matière. Voilà. Donc, à la fin de ce stage, je suis revenu avec mon petit chalumeau perlier, mes quelques baguettes de verre. Alors, je vous parle de ça, j'avais 14-15 ans, hein, j'étais tout jeune. Et j'ai continué à travailler, enfin, à travailler, à m'essayer, en fait, à ce matériau jusqu'à la fin du collège pour ensuite partir sur Paris suite à ma formation au lycée d'Orient.
Dites-nous, qu'est-ce qui vous attirait dans cette matière?
Alors, il y a plusieurs choses, hein. C'est une matière qui est transparente. Il n'y a pas beaucoup de matières transparentes qui existent. Et on pouvait travailler avec la lumière, notamment sur cette matière. Et sur la technique sur laquelle j'ai choisi de me former, qui est le travail du verre au chalumeau, où on fusionne la matière à l'aide d'un chalumeau plutôt que de la fusionner dans un four. Ça va permettre de travailler la finesse et le détail. Et j'ai toujours été quelqu'un de très patient, très minutieux. Et du coup, c'est ça qui m'attirait dans cette technique de travail. Donc ça, cumulé au jeu avec la lumière, la transparence du matériau, a fait que je me suis orienté sur ce matériau et plus particulièrement sur cette technique de travail.
Alors, il y a plusieurs techniques pour travailler le verre. Beaucoup de gens connaissent, ont des visions de choses qu'ils ont vues faites à Venise ou sur des documentaires à la télévision où on souffle et on voit le verre qui s'étire ou le cristal qui s'étire. Vous, c'est une technique différente. Vous pouvez nous l'expliquer un petit peu, cette technique particulière?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, vous avez deux techniques principales de travail du verre à chaud. Une technique où, effectivement, comme on voit plus souvent dans les reportages, des verriers qui vont aller chercher leur verre en fusion dans le four, au bout d'une tige métallique, et qui vont réaliser leur pièce, par soufflage. Moi, la technique va être différente, c'est-à-dire que la fusion se fait à l'aide d'un chalumeau. On part sur des tubes ou des baguettes de verre que l'on va transformer. Alors, il y a soit par le souffle, pour toutes les pièces en verre soufflé, on souffle aussi la matière, hein, au chalumeau, donc pour faire toutes les formes creuses, soit ce qu'on appelle le verre filé au chalumeau, c'est-à-dire qu'on part sur des baguettes de verre, on va donner la forme uniquement par le gestuel quand le verre va être mou, c'est-à-dire en appuyant entre deux baguettes notre verre pour augmenter le volume ou en l'étirant pour l'affiner et en venant faire des rajouts de verre sur notre masse de verre principale pour faire ressortir tous les reliefs. Voilà. Et on
Alors,
travaille sans moule, uniquement au visuel.
mais vous parlez de baguettes creuses et de baguettes pleines. Donc,
Oui.
les creuses, c'est pour vous souffler, les pleines, vous les mettez, enfin, j'ose pas
C'est
dire
ça.
manipuler.
Les baguettes creuses, en fait, nous servent à faire toutes les pièces en verre soufflé et les baguettes pleines, les pièces en verre massif, en fait.
Donc, vous soufflez quand même aussi dans votre technique dans les baguettes creuses.
C'est ça. Pour
D'accord.
faire tout ce qui est flacon à parfum, soliflore, etc.
Alors, racontez-nous un peu votre formation. Combien de temps est-ce que cela prend? Qu'est-ce que l'on fait? Comment est-ce que ça s'organise par rapport aux études classiques?
Oui, alors c'est une formation professionnelle, donc on a 2 années de CAP et 2 années de brevet des métiers d'art à la suite. Donc ça fait une formation totale sur 4 années. On va aborder la technique pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation en verrerie artistique à proprement dite au chalumeau. On va nous faire aborder la technique pure via la verrerie scientifique, mais où on utilise les mêmes process de mise en œuvre, si vous voulez, qu'en verrerie artistique. Et pendant ces 4 années de formation, ça va nous permettre de pouvoir maîtriser les bases techniques du métier. Et puis à la fin, après cette formation, on va continuer à développer notre savoir-faire technique et développer notre style artistique. Alors ça a un avantage quand même, c'est que du coup, on n'est pas influencé par un maître de formation au niveau de son style artistique. Ça nous permet de développer notre propre style.
Et donc, vous avez commencé cette formation à, vous aviez quel âge ?
Je sortais de collège, alors je devais avoir 16 ans.
16 ans, d'accord. Donc,
quand on sort de 3e, 16-17 ans, j'ai jamais redoublé, donc c'était ça, je devais avoir, j'étais prête à avoir mon 17e anniversaire, quoi, voilà.
Et donc, vous êtes consacré entièrement à votre formation pendant 4 ans.
C'est ça, oui, je suis parti en fait en internat sur Paris, parce que la seule école de France pour apprendre cette technique de travail se trouve à Paris. Et donc, il n'était pas possible de rentrer tous les jours. Donc voilà, je suis parti sur Paris et je rentrais tous les week-ends en fait. Et la semaine, je restais à l'internat.
Et comment s'appelle cette école ?
Le lycée d'Orient à Paris, D-O-R-I-A-N.
D'accord. Donc c'est là que vous acquérez toutes les bases techniques, mais hors influence, si on peut dire, entre guillemets, artistique. Vous n'aviez pas des cours, si on peut dire, historiques sur l'évolution du métier de verrier.
Alors, il y avait des cours en parallèle hein, quand même. C'est-à-dire que vous êtes quand même sur ce qui s'appelait un brevet des métiers d'art. On avait un tout petit peu de verrerie décorative, mais qui était vraiment bridée dans le sens, enfin bridée. C'était sur des sujets imposés, c'était sur un thème imposé avec un plan à respecter. Enfin, on avait beaucoup moins le schéma créatif qu'une formation purement artistique. Vous voyez ce que je veux dire ? On était guidé en fait. Le prétexte de l'exercice, c'était quand on était sur de la verrerie scientifique, c'était de faire un réfrigérant en verre pour un appareil de distillation, par exemple, côté. Et si on avait ponctuellement un exercice en verrerie artistique, c'était de faire un verre à pied. Donc, on changeait le support, mais le but était toujours technique avec des cotes à respecter sur le sujet. On n'avait pas vraiment d'exercice où on nous disait, bah, écoutez, voilà, vous avez un thème plutôt philosophique, par exemple, et où on devait réaliser une pièce dessus. Par contre, on avait en parallèle des cours de dessin d'art et d'histoire de l'art, donc qui nous permettaient d'appréhender l'histoire du verre sur les différentes périodes. Et sur les 2 premières années de CAP, c'était l'histoire de l'art sur la verrerie. Et pendant les 2 années de brevet des métiers d'art, on était sur de l'histoire de l'art beaucoup plus généraliste. Donc, ça pouvait passer par la sculpture, la peinture, etc.
Donc, c'est une formation très complète qui permet à ceux qui vont à ce lycée de s'orienter à la sortie, soit vers des domaines scientifiques ou artistiques. Il y a plusieurs possibilités qui sont offertes. C'est bien cela ?
C'est ça. Alors, en fait, sur les débouchés, il faut bien être conscient que les débouchés principaux sont sur la verrerie scientifique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la chance que ce soit une école publique. Hein. Donc, on a une formation, si vous voulez, en verrerie scientifique, parce que les débouchés sont sur la verrerie scientifique. Les entreprises qui vont embaucher, ça va être des entreprises de verrerie scientifique. En verrerie artistique, généralement, c'est s'installer à son compte, le but, puisque c'est souvent des ateliers individuels. Ce sont des personnes qui vont s'installer à leur compte pour exercer dans la verrerie artistique au chalumeau.
C'est quand même merveilleux de voir que, même pour la verrerie scientifique, ça n'est pas une machine qui fabrique ce dont on a besoin.
Bien sûr, alors ça dépend des appareillages, hein, évidemment, sur les appareillages simples, tubes à essai, des ballons de distillation à un seul col ou des pipettes jaugées, des choses comme ça, c'est fait machine, ce sont des pièces simples travaillées sur un seul axe. Par contre, le verrier, lui, va s'occuper de toutes les pièces complexes. On les retrouve, en fait, vous parliez de débouchés tout à l'heure, sur des entreprises privées qui vont réaliser sur commande des pièces, mais on les retrouve aussi à des postes à temps complet sur des facs scientifiques, en fait, où ils travaillent directement au contact avec les chercheurs pour réaliser des appareillages sur mesure suivant les recherches du chercheur. Voilà, donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a un contact directement avec la personne qui fait une recherche pour réaliser un appareillage qui correspond à sa recherche et qui n'existe pas forcément dans les circuits d'appareillage standard.
Mais il y a combien de verriers qui sont formés, qui sortent de cette école chaque année, en gros, enfin,
Vous êtes sur
pour
une.
pas dire de
Alors
bêtises,
après, ça
mais...
dépend des années, si vous voulez, mais en gros, vous êtes sur des classes d'une vingtaine de personnes.
Et qui ressortent de
Donc.
là, diplômés, pouvant
Alors, qui
travailler.
ressortent, ça dépend parce qu'en cours de route, il y a un écrémage, on va dire. C'est une matière qui n'est pas forcément facile à appréhender hein, au départ, qui a ses contraintes de travail. Et du coup, ça demande un petit peu de persévérance. Donc, des fois, on a des personnes qui abandonnent en cours de formation. Mais oui, vous sortez quand même avec un certain nombre de personnes qui sortent tous les ans, en fait, et qui s'oriente, je vous dis, principalement sur de la verrerie scientifique.
Donc, vous saviez que vous vouliez être verrier, ça avait été le coup de foudre, et donc vous saviez que vous vouliez ouvrir un atelier à votre propre compte, et vous m'avez raconté que vous aviez vraiment préparé cela et que vous faisiez des économies, je crois, pour acheter l'équipement et des instruments nécessaires, car il y a quand même une mise de fonds.
Oui, c'est ça. Alors, pendant ma formation, en fait, sur les 4 années de formation, moi, j'avais la particularité, quand je suis rentré sur cette formation, je savais que je voulais m'installer à mon compte. Et du coup, pendant ces 4 années, c'est vrai que mes économies, j'ai acheté petit à petit le chalumeau, je me suis constitué un petit stock de matières premières, enfin voilà, j'ai acheté le petit matériel nécessaire pour pouvoir m'installer au bout de ces 4 ans. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fini ma formation en juin 2003 de verrier, donc où je suis sorti avec mon brevet des métiers d'art de la formation, et j'ai ouvert ma boutique en novembre 2003. Donc, vous voyez, il y a eu un laps de temps très court entre le moment des fins d'études et de l'installation, le temps de faire le stock nécessaire à l'ouverture de la boutique, et voilà.
Eh bien, on va vous laisser là pour écouter un morceau de musique que vous avez choisi, que nous allons écouter, et nous allons reprendre après pour parler de votre première grande œuvre. Donc, à tout de suite, chers auditeurs. Pour ce morceau de musique, et nous allons passer à votre première œuvre qui a un très joli nom que je vous laisse nous annoncer.
Alors, la première œuvre que j'ai réalisée, œuvre conséquente, on va dire, que j'ai réalisée quand je me suis installé, ça a été une pièce qui s'intitule Bateau Chimère, donc qui représente, comme son nom l'indique, un bateau un petit peu fantastique. Et donc, c'était le premier challenge sur une pièce conséquente que je me suis lancé. Il fait une une cinquantaine de centimètres à peu près, tout en verre filé. Et donc j'avais envie d'aller sur une caisse conséquente comme ça pour me jauger aussi, pour voir si j'arrivais à faire la pièce. J'ai toujours été assez à me challenger dans mon parcours et voilà, ça a été la première pièce conséquente que j'ai réalisée à mon installation.
Alors, pour que nos auditeurs puissent représenter cela, quand on parle de verre filé, cette œuvre-là fait un peu, je ne veux pas dire comme de la dentelle, c'est plutôt comme une résille à mailles larges, fines. On n'est pas du tout dans une œuvre de verre à bloc. On est vraiment dans quelque chose de travaillé, de très transparent, avec du vide entre les mailles, si je puis dire, de ce que vous avez fait. Est-ce que je respecte un petit peu
oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais en début d'interview, sur le choix de la technique de travail du verre au chalumeau, on peut vraiment travailler très fin. Pour donner un ordre d'idée, en fait, j'ai fait les cordages du bateau. Les cordages sont des fils de verre étirés qui font à peu près 1 mm de diamètre. Donc, on est vraiment sur des cordages très fins. On peut vraiment aller chercher la finesse sur les réalisations qui vont être faites au chalumeau. Voilà. Donc, on a ces différents maillages, effectivement. D'ailleurs, sur mes sculptures plus actuelles, je travaille sur ce que j'appelle des résilles de verre, qui sont des trames comme ça, assez fines, en tiges de 3 mm, en fait, qui sont fixées les unes aux autres et qui créent des formes plus épurées, où là, je travaille sur des sujets avec des titres comme point de rupture, point d'impact, cocon de réflexion, ouverture, enfin voilà, des pièces avec des thèmes, une réflexion et toute une démarche artistique et une analyse derrière la pièce.
Vous avez également, est-ce que la cage aux oiseaux que vous avez faite appartient à la même époque ou c'est quelque chose de plus récent?
Alors là, on se situe un petit peu entre les deux époques, en fait. Le bateau était vraiment la toute première pièce. Les pièces en maillage sont vraiment les dernières pièces que j'ai travaillées. Et la cage venait juste avant les pièces en maillage. Ça s'est fait, en fait, dans la boutique, qui est une grande cage, hein, qui fait presque 1 mètre de haut, qui est fait entièrement en verre, avec les gonds en verre et le petit loquet articulé. Voilà. C'est parti, en fait, d'une première petite cage que j'avais fait pour les parfums Caron à Paris, pour le siège des parfums Caron, qui avait été exposé pour une vitrine de Noël Place Beauvau. Et j'ai trouvé que le rendu était vraiment intéressant et j'avais envie de la refaire en grand format. Donc ce que j'ai fait pour montrer un petit peu justement la finesse sur laquelle on peut travailler.
Donc ça m'amène à poser la question, j'entends le mot flacon à parfum, donc vous faites différents types d'objets, vous pouvez nous en parler entre les vases et les flacons à parfum, nous raconter
bien sûr.
Quels sont les genres de commandes que vous avez.
Alors en fait, j'ai ma production courante où là je vais travailler effectivement du soliflore, des vases, des flacons à parfum, des sculptures, du bijou, voilà, une palette assez variée. Je peux travailler un petit peu sur les arts de la table aussi, ça m'est déjà arrivé. Et après, je vais travailler sur commande. Alors sur commande, ça peut être pour des particuliers, pour des grandes maisons, pour différentes personnes. Donc ça peut être des trophées pour des grands événementiels, ça peut être des réalisations pour des grandes maisons du luxe, donc là ça peut être du flacon à parfum, ça peut être des éléments pour des shootings photos, j'avais travaillé sur des bijoux aussi pour le Japon avec du champagne et de la feuille d'or emprisonnée à l'intérieur d'une goutte en verre qui était montée en collier. J'avais réalisé récemment des bouchons de flacons à parfum pour un flacon pour une aïeule de François Coty qui rééditait un flacon emblématique pour le centenaire. Donc voilà, il y a eu plusieurs projets comme ça qui sont arrivés au fur et à mesure. Donc après, les marques pour lesquelles j'ai travaillé, on peut en citer quelques-unes. Il y a eu les parfums Caron qui ont été les premiers à me faire confiance et que je remercie. Il y a eu Dior, il y a eu Chanel, il y a eu Cartier, il y a eu les champagnes Tétinger, il y a eu L'Oréal. Enfin voilà, il y en a eu plusieurs. Et après là, je m'adapte en fait fonction de la demande, avec des fois un cahier des charges soit très strict où là on est vraiment sur une réalisation pure, soit avec un carnet de tendance et où on nous demande de faire une proposition de pièces qui corresponde au carnet de tendance et aux impératifs demandés. Voilà.
En fait, j'ai peut-être sauté une étape en parlant de ce que vous faites maintenant, parce que vous êtes également, comme je l'avais annoncé au tout début de l'émission, meilleur ouvrier de France. Et vous l'avez été plutôt jeune, à 27 ans, je crois. Vous pouvez nous raconter comment cela se passe pour vous dans votre métier?
Oui, alors en fait, le concours de meilleur ouvrier de France est un concours national qui a lieu tous les 3-4 ans et qui va récompenser l'excellence professionnel, enfin l'excellence dans un métier en fait. Il est présenté sur plus de 200 corps de métier et donc moi j'ai eu envie de présenter ce concours sur la première année où j'étais en âge de postuler. Il y a un âge minimum pour pouvoir postuler. Sur la verrerie, parce que ça dépend des corps de métier, l'organisation, sur la verrerie, ça se déroule en deux étapes, en fait. Les épreuves éliminatoires, où là, en loge devant jury, on va travailler sur un thème imposé, qui l'année où j'ai présenté le concours était le jeu d'échecs. On devait réaliser des pièces d'exception de jeu d'échecs pour les épreuves éliminatoires. Où là, sur une demi-journée, en fait, on a un jury qui va nous regarder travailler pour juger notre dextérité manuelle. Voilà, et juger du rendu des pièces qui ont été réalisées pendant la demi-journée de concours. À la suite de cette étape, on va passer en épreuve finale, si on a convaincu le jury, et où là, on va avoir un chef-d'œuvre à réaliser sur à peu près une année, sur un thème imposé. Donc l'année où j'ai présenté le concours, le thème imposé était l'éternel combat entre le bien et le mal. Voilà, donc j'ai réalisé une pièce présentant deux formes humanoïdes ailées, avec chacun une aile d'ange et une aile de démon, pour dire que personne n'est totalement bon ou totalement mauvais, on a tous une part de bien et de mal en nous. Ils se font face pour marquer une dualité, et ils ont dans leurs mains un globe terrestre en vert blanc, continent feuille d'or, ou vert noir, continent feuille d'argent, pour dire que selon comment ils utilisent cette part de bien et de mal, c'est une répercussion sur leur entourage, leur environnement. Voilà. Et en parallèle, on a tout un dossier, évidemment, à réaliser, un dossier papier. On va faire une analyse du thème, un justificatif de chaque élément de la pièce par rapport au thème et une analyse de fabrication technique. Sachant que quand on est noté, on a une note technique et une note artistique. Si on a une pièce qui est très technique mais pas suffisamment artistique, ça ne passe pas. Si on a une pièce qui est très artistique mais pas suffisamment technique, ça ne passe pas. Il faut vraiment réussir à cumuler les deux sur la pièce. Alors j'ai eu la chance d'être lauréat sur ma première participation. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui participent 2, 3, 4 fois avant de réussir à obtenir le titre. Moi c'est vrai que j'ai eu cette chance d'être reçu dès la première participation. Et pour vous donner un ordre d'idée, alors bon, je suis sur un métier qui est où on est peu à pratiquer, donc forcément c'est peu de lauréats. Et j'étais le 17e lauréat depuis la création du titre en 1923.
Et d'ailleurs,
lorsque j'ai eu mon titre en 2011.
Pardon, excusez-moi. On peut voir d'ailleurs cette œuvre chez vous, Adrien Collin, dans votre atelier en fait, qui est atelier et boutique à la fois. On peut toujours voir cette œuvre.
Bien sûr, oui, elle est exposée.
Alors, puisqu'on parle de vos œuvres et du merveilleux de France, vous êtes également maître verrier hors pair. Alors, pouvez-vous nous dire la différence, comment cela se passe pour être maître verrier hors pair?
Alors, maître verrier hors pair, c'est vous qui me donnez ce titre. J'ai eu le titre de maître artisan en métier d'art par la Chambre de métiers de l'artisanat. Et j'ai eu l'honneur de recevoir le titre de chevalier des arts et des lettres du ministère de la Culture. Donc c'est un parcours en fait comme le meilleur ouvrier de France, je pense que, enfin pour moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est un concours qui permet de mettre en avant notre savoir-faire, notre entreprise, mais qui permet surtout de mettre en avant notre métier en général. Ça permet de montrer qu'on a encore à l'heure actuelle une excellence professionnelle manuelle, que tout n'est pas mécanisé et que l'on est sur des savoir-faire que la machine ne pourra pas reproduire et des savoir-faire d'excellence. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, on le retrouve, je suis très investi au niveau associatif sur la défense et la mise en avant des métiers d'art et des métiers manuels au sein des meilleurs ouvriers de France ou d'autres associations.
En fait, être maître, enfin, meilleur ouvrier de France, c'est un peu être, on devient un peu ambassadeur de son métier quand on reçoit ce titre et qu'on le représente ensuite toute sa vie.
C'est totalement ça. C'est-à-dire que quand on est meilleur ouvrier de France, on n'est pas meilleur ouvrier de France d'une année. C'est un titre qu'on a à vie, en fait. Il faut savoir que quand on est meilleur ouvrier de France, donc moi j'ai été meilleur ouvrier de France année 2011, on ne peut plus représenter le concours sur les années suivantes. C'est-à-dire que c'est comme, on va estimer que c'est comme un bon vin, on s'améliore en vieillissant. Donc voilà, on ne peut pas représenter dans la même catégorie le concours. Donc partant de là, on a des valeurs qui font partie du titre qu'on va défendre, qui vont être la défense d'un savoir-faire, la mise en valeur de son métier, la transmission. Enfin voilà, tout ça, ça va être des valeurs qui sont liées à ce titre. Et souvent, quand vous discutez, vous m'avez dit que vous avez déjà eu l'occasion d'interviewer des meilleurs ouvriers de France. Généralement, vous verrez que vous avez affaire à des passionnés de leur métier. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans ce métier-là par hasard. C'est vraiment des personnes qui ont une passion pour leur métier. Et du coup, ça va se ressentir dans la façon dont ils vont en parler et dans la façon dont ils vont le transmettre et mettre en avant ce métier.
Je vous confirme. Alors, dernière question. Quels sont vos thèmes d'inspiration en général, vos projets par rapport donc à ce que vous faites?
Alors, je ne vais pas être très original comme beaucoup de créateurs, beaucoup d'artistes, d'artisans. La nature est une source d'inspiration inépuisable. Ça peut être une simple texture dans la nature, ça peut être un mélange de couleurs, ça peut être la faune, la flore, les fonds marins. Enfin voilà, ça peut être du figuratif. Et en parallèle aussi travailler sur des ressentis. Quand j'ai travaillé sur la pièce que j'évoquais tout à l'heure, le cocon de réflexion, on était plus sur un ressenti, une attitude, des expériences de vie, des choses comme ça en fait, des périodes où on aurait tendance à vouloir se recentrer, à réfléchir sur certains points. Bon bah voilà, est sorti la pièce cocon de réflexion. J'avais fait la pièce ouverture qui représente un personnage qui repousse un mur. C'était le côté un peu challenge, ouverture d'esprit, ouvrir son champ des possibles. Donc ça ce sont les deux facettes qui m'inspirent principalement sur mes pièces.
Merci beaucoup Adrien Collin de nous avoir présenté. Et ça n'est pas facile, je pense, pour un auditoire d'imaginer les choses, mais vous nous avez décrit votre univers. Je vous en remercie et je vais dire à nos éditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission qui a été faite à la technique par Paolo Davi et Claude Casal, présentée par moi-même Catherine Fox, et ils peuvent le retrouver sur nos podcasts sur notre site radiograndciel.fr. À très bientôt.